je vais poursuivre et je pense faire écho à plusieurs de tes remarques et de tes analyses sur la question précisément de l'absentéisme scolaire, de l'école buissonnière, enfin de ce qu'on appelait autrefois l'école buissonnière. J'ai envie pour faire écho à ce que disait Bertrand Jay en début d'intervention, de rappeler effectivement ce que disait Sarkozy avant-hier. Assez surprenant pour ceux qui suivent le dossier depuis assez longtemps, comme j'ai essayé de le faire, sur les allocations familiales. Donc ça a été supprimé à grand renfort de médias en 2002. Quand il est arrivé à l'intérieur, je vais y revenir, il a dit effectivement qu'on ne touchait pas aux allocations familiales, c'est tabou. On va créer une amende parentale. Vous savez que depuis 2004, il y a une amende parentale pour sanctionner l'absentéisme. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, il a réinstauré la suspension des allocations familiales via le contrat de responsabilité parentale. Et là, il en reparle à nouveau. Donc finalement, on se retrouve avec deux modes de sanctions, donc la suspension des allocations familiales plus l'amende parentale, alors qu'effectivement, en 2002, il avait dit qu'on ne toucherait pas aux allocations familiales. Donc on a vraiment effectivement du déclaratif qui s'empile sans aucun sens sur le terrain, enfin, ça devient, à mon avis, complètement inaudible pour vous. Je dis vous parce que je sais qu'il y a des CPE dans la salle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion. Donc moi, je vais revenir sur un processus de construction, enfin, ce qu'on peut appeler le processus de construction sociale du phénomène de l'absentéisme, comme Romuald évoquait avec cet article, comme une question de sécurité intérieure. Ce qui ne veut pas dire que l'angle sécuritaire épuise la question, mais je pense qu'il est, pour l'absentéisme en particulier, c'est une dimension qui est devenue très importante pour thématiser l'absentéisme scolaire. Pour la déscolarisation, la question de l'insertion professionnelle est certainement aussi importante, mais la question d'ordre public, à mon avis, a été très déterminante pour sous-tendre, je dirais, cette construction de l'absentéisme scolaire. J'essaierai de le justifier au cours de mon développement. Je vais essayer de ne pas me limiter à ça, donc de faire vite là-dessus, revenir sur quelques étapes de ce processus de construction de l'absentéisme ces 15 dernières années, pour ensuite voir quelles sont les grandes missions qu'on assigne à l'institution scolaire au nom de la lutte contre l'absentéisme et donc contre la délinquance, puisqu'il va y avoir une association de délinquance-absentéisme qui va se cristalliser ces dernières années. Et enfin, j'aimerais garder quelques minutes pour dire un peu, à partir d'enquêtes que j'ai menées dans les établissements parisiens essentiellement, ou de la région parisienne, ce que fait l'école de ces injonctions politiques. Pour reprendre une des hypothèses fortes de Bertrand Jay dans un de ses articles, effectivement, on ne peut pas inférer à partir des textes officiels ce qui se joue, heureusement, et se fait dans les établissements. C'est bien par l'enquête ethnographique qu'on peut voir comment les acteurs s'approprient, résistent, se conforment aux décrets, aux lois, aux circulaires, aux discours publics concernant notamment le décrochage pour l'absentéisme. Donc je reviens rapidement sur le processus de construction de l'absentéisme comme question de sécurité intérieure, de manière trop schématique, évidemment. En rappelant évidemment que l'école buissonnière est aussi vieille que la loi d'obligation scolaire, donc depuis 1882, il y a de l'école buissonnière. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on prenne en charge socialement, politiquement, médiatiquement la question, qu'on la thématise sous un angle particulier. Et ce moment-là, me semble-t-il, se situe autour, et là ça fait écho évidemment à d'autres interventions d'hier et de ce matin, à mon avis ça se situe autour de 97, au moment où les socialistes avancent décomplexés par rapport, plus décomplexés qu'ils ne l'étaient en tout cas avant, par rapport à la question de la sécurité. Donc il y a ce moment-là assez fort où Chevènement, au colloque de Villepinte, et d'autres, Martine Aubry, Claude Allègre, se réunissent et vont thématiser la question de la délinquance en disant que l'école doit avoir un rôle essentiel dans cette lutte contre la délinquance des mineurs. Et donc ça a été un des moments où se cristallise, ça a un peu commencé avant, mais c'est un des moments clés à mon avis où se cristallise ce processus de thématisation de l'absentéisme à l'aune de la question de la délinquance des mineurs. Et donc voilà, en gros, le ministère de l'Intérieur Chevènement, accompagné de ses collègues socialistes nouvellement arrivés au pouvoir en 1997, vont dire voilà, l'école doit resserrer les mailles du filet, doit lutter contre la délinquance des mineurs en luttant contre l'absentéisme scolaire. Donc le début de la corrélation et de l'association se joue, à mon avis, autour de ce moment clé du colloque de Villepinte. Et ça me paraît important, effectivement, de ne pas insister uniquement sur 2002, Sarkozy. Je pense, effectivement, que depuis 1997, avec le discours sur les sauvageons, les barbares, l'école, enfin les contrats locaux de sécurité, où on demande effectivement à l'école de devenir des partenaires de la lutte contre la sécurité à l'échelle locale. Voilà, bon, il y a tout ce processus-là qui va être prolongé et accentué, certes, par la politique de Sarkozy à l'intérieur entre 2002 et 2007, jusqu'à la loi de la prévention de délinquance de 2007, j'y reviens tout de suite, mais ça a été bien préparé en amont, donc je pense que c'est important, effectivement, puisqu'on a un public politique, militant, et aussi d'avoir ça à l'esprit, voilà, dans le processus de construction. Le processus se renforce, évidemment, de manière très, très nette en 2002, quand Sarkozy arrive à l'intérieur, dans son texte consacré à la sécurité intérieure, il dit effectivement que l'absentéisme est la première étape de la délinquance des mineurs. Hein, donc il faut, et c'est une des priorités, effectivement. Et c'est à ce moment-là qu'il va proposer une amende de 2000 euros à l'époque. Ça fait un tollé. La FCPE résiste notamment. D'autres associations, certains sont plutôt suiveurs hein, là-dessus. Des médias qu'on aurait attendu plus résistants sont assez... il faudrait revenir là, sur tous les détails de ces débats-là. Mais enfin bon, il y a un tollé. Finalement, il va y avoir un groupe de travail. Et on va arriver quand même à un texte en 2004 avec une amende parentale de 700 euros, plus de 2000 euros, mais de 700 euros. Pour sanctionner l'absentéisme, donc avec une approche substantialiste et décontextualisée, sur laquelle je ne reviens pas parce qu'elle est finalement pratiquement dans chaque intervention déclinée. Il s'agit de redire et de confirmer l'idée que c'est la famille et l'élève les responsables qu'il faut punir, hein, et donc par ce délit, par cette peine financière qui est créée. Et avec ce que je disais tout à l'heure, normalement une suppression de ce dispositif de suspension des allocations familiales parce qu'on ne touche pas aux allocations familiales, etc. Bon, et finalement, on l'a réinstauré en 2006 avec le contrat de responsabilité parentale. Donc voilà, nouvelle thématisation sécuritaire. Alors, j'ai envie de faire écho à une remarque de Loïc Vacant et puis de ce matin également. Je pense que c'est important, effectivement, de parler de ce processus en termes de processus de socialisation collectif et non pas en termes d'accentuation et uniquement de la répression. C'est bien, comme disait Loïc Vacant hier, une production de catégories, de modes de faire, de manière de penser le problème du décrochage et de l'absentéisme qui se cristallise dans ces années-là, et non pas uniquement une chape de plomb sécuritaire qui s'abat. C'est bien une forme d'apprentissage, voilà, qui s'organise, qui se thématise avec des résistances, évidemment, je vais y revenir. Quels sont les... j'ai sauté plein de choses, mais c'est bien, parce que j'aurais pas le temps, de toute façon, de... Bon, enfin, en quelques mots, oui, ce que j'ai complètement zappé, c'est effectivement l'avalanche de textes, l'inflation des textes dans ces années-là. Donc, j'ai évoqué avec l'époque Chevènement les CLS, où on a quand même quelque chose qui s'invente à cette époque-là, c'est la co-signature éducation-justice-police, qui est une bonne... une bonne annonce de ce qui va maintenant se confirmer, ce qui se confirme depuis la loi de 2007 de Sarkozy sur la prévention de la délinquance, c'est-à-dire l'encouragement, la valorisation des partenariats école-police-justice au nom de la lutte contre la délinquance des mineurs qui passe par une lutte contre l'absentéisme scolaire. Donc il y a les CLS, par exemple, il y a la circulaire de 96, donc juste avant sur le renforcement de la lutte contre l'absentéisme, d'autres lois à la fin des années 90, puis le décret de 2004 sur l'absentéisme, la loi de prévention de la délinquance et le dispositif l'année dernière interministériel contre le décrochage. À chaque fois, vous avez des co-signatures, pas toujours les mêmes, mais vous avez souvent, et c'est ce qui était interpellant pour les chercheurs, quelque chose qui atteste, on pourrait dire, pour faire un jeu de mots d'un journaliste, mais que je trouve parlant, une déscolarisation du problème très scolaire de l'absentéisme scolaire. C'est-à-dire qu'on a la justice, la police et d'autres acteurs, en principe chargés des questions de répression, qui vont s'approprier et thématiser presque à eux seuls la question de l'absentéisme scolaire, donc une question quand même très scolaire. Je rappelle que Luc Ferry, à l'époque où Sarkozy a mis la main sur le problème de l'absentéisme scolaire, entre 2002 et 2004 en particulier, s'est complètement effacé derrière son collègue, entre guillemets, de l'intérieur. Alors, je ne développe pas plus, on pourra en reparler peut-être dans la discussion. Quelles sont finalement les injonctions qui sont données à l'école? Bon, l'école doit devenir un partenaire, en gros, de la lutte contre la délinquance des mineurs. Il y a trois types de missions. Si on lit les textes, évidemment, il y a des choses sur renforcer la motivation des élèves renforcer le tutorat, la remédiation. Bien sûr, je ne veux pas nier ça, parce que j'ai les gens qui travaillent dans les établissements, dans la salle, je ne veux pas nier tous ces aspects-là. Mais ce qu'il emporte, quand on lit, quand on croise les textes, puisque c'est ce que j'ai essayé de faire comme exercice, quand on lit les différents textes qui s'adressent à l'institution scolaire, ce qu'il emporte quand même, c'est trois missions essentielles pour lutter contre l'absentéisme. C'est le rappel de la loi, c'est tout le registre très actuel qui... très républicain, très néo-républicain et qui trouve des prolongements avec l'ère Sarkozy, c'est effectivement rappeler avec fermeté la loi, le côté non négociable de la loi d'obligation scolaire, la loi d'assiduité. Donc ça, c'est un premier aspect des injonctions qui sont faites à l'institution scolaire, rappeler avec force la loi, en finir avec la tolérance, justement, on va y revenir. Ou une certaine souplesse, les fameux 4 demi-journées d'absence qui étaient tolérées historiquement depuis 1882. Justement, 2004, il n'y a plus de on doit réagir dès la première absence, hein, en principe. On va y revenir après, on va revenir sur les réalités ensuite. Deuxième ordre de mission, quantifier, mesurer, repérer, enregistrer, signaler. Enfin, je veux dire, bon, je vais vite, mais je veux dire, c'est ça, les grands mots-clés, c'est quand même avoir une mesure la plus précise possible du phénomène. Je pense que mes collègues CPE ne me démentiront pas. Ça fait sourire quand on va sur le terrain de ce mot d'ordre. Cette mission, évidemment, fait sourire puisqu'on sait tous les biais, on va y revenir, et toutes les difficultés qu'il peut y avoir au quotidien à produire un chiffre qui serait produit en temps réel, exact, fidèle, etc., à la réalité de l'absentéisme scolaire. C'est les mêmes soucis qu'il peut y avoir sur les chiffres de la délinquance, évidemment. Donc on va y revenir. Mais donc ça, c'est un impératif, la comptabilisation, s'équiper des nouveaux outils type logiciel permettant l'envoi de SMS aux parents. C'est très valorisé depuis 8-9 ans. Il y a des marchés aussi qui se développent là-dessus, en même temps que se réduisent les effectifs des assistants d'éducation. Il y a aussi des expérimentations d'appel avec des codes barres. Bon, les élèves, on leur attribue un code barre, on fait l'appel. Ça permet une transmission en temps réel de l'information au bureau de la vie scolaire qui pourrait idéalement réagir tout de suite et envoyer un SMS aux parents. Enfin bon, là, si je suis la logique. Donc voilà un ordre de logique qui est très gestionnaire, qui est valorisé au plan politique et qui s'adresse à l'institution scolaire. Et le troisième, je l'ai oublié. C'est pas très grave, je suis pas du tout. Voilà, bon, enfin, dépistage, effectivement, etc. Bon, peu importe. Je voudrais prendre un petit peu de temps. J'ai encore 5 minutes, 7 minutes.
Oui, 7 minutes.
Finalement, essayer de voir. Oui, non, ça, si, voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé mon troisième ordre de mission. Si, c'est important et c'est un nouveau comment dirais-je, axe de recherche que je mets en place actuellement. C'est sur la question de l'information, la question du signalement. Je m'arrête un peu plus sur le signalement. J'ai parlé de l'importance de la mesure et de la comptabilisation du phénomène. Il y a aussi un nouveau paradigme qui s'affirme avec la loi de prévention de la délinquance de 2007. L'institution scolaire doit informer, via l'inspection académique, le maire des situations à risque. C'est-à-dire que c'est le maire qui devient, vous le savez ou pas, l'acteur central de la politique de sécurité intérieure à l'échelle locale. C'est lui qui doit centraliser et qui est potentiellement encouragé à créer des fichiers. Il n'est pas obligé, mais il est encouragé à créer des fichiers. Donc il y a eu des débats que vous avez forcément tous à l'esprit sur la base élève. Il y a une possibilité de prolongement via le logiciel Sconet au secondaire. Donc on est, c'est bien une problématique très contemporaine depuis 3-4 ans. Mais donc voilà, il y a cette logique de valorisation de la transmission d'informations. Il faut communiquer les informations selon une logique du secret professionnel partagé, selon la nouvelle formule qui s'est imposée ces dernières années autour du débat sur la loi de 2007. Alors, bon, j'essaie de garder un tout petit peu de temps pour faire référence à quelques traits paradoxaux, je dirais, de l'appropriation dans les établissements, de toutes ces injonctions que j'ai malheureusement dit de manière trop schématique. Mais évidemment, ce n'est ni conformisme, ni application mécanique, ni résistance en bloc. C'est évidemment... C'est un mixte. J'ai envie de, pour la clarté de l'exposé, souligner des points qui me paraissent tendanciellement aller dans le sens d'une... des injonctions politiques, et puis de montrer un peu aussi, évidemment, de m'arrêter sur quelques pierres d'achoppement, montrer comment ça résiste, comment cette logique, notamment gestionnaire et d'extension du contrôle, résiste, parce qu'effectivement, le champ scolaire, même si son autonomie, à certains égards, recule, reste, comment dirais-je, mue par une logique propre, avec la question de la massification scolaire, les difficultés que pose aujourd'hui cette gestion de nouveaux publics, etc. Donc, évidemment, il n'y a pas de déterminisme mécanique entre texte politique, injonction politique et ce qui se joue à l'exception. Alors, sur la question plutôt du conformisme, d'abord, bon, l'analyse du phénomène un peu substantialiste, décontextualisée, les parents sont les principaux coupables des manquements à l'assiduité. Alors, ce discours-là, évidemment, très fort politiquement, on ne peut pas dire qu'il fasse l'objet d'une grande résistance de la part des acteurs de l'institution, pour une raison qu'on comprend assez simplement, c'est qu'il permet à l'institution d'éviter le questionnement et donc d'externaliser les difficultés. Hein, c'est donc de donc je dirais que ce discours-là est plutôt bien reçu. Après, il y a des nuances. Hein, le discours sur l'aggravation des sanctions, dans mes entretiens, je vois plein d'enseignants et de CPE, évidemment, plus que d'enseignants d'ailleurs, qui sont très résistants par rapport à l'idée de créer un délit pour l'absentéisme, etc. Donc il y a de la contradiction, mais évidemment, sur le fond, il y a quand même un discours dominant par l'explication causale de la famille, qui est évidemment, qui s'est politiquement renforcé, qui est assez, qui flatte, je dirais, une partie de l'approche institutionnelle classique du phénomène. J'ai pas le temps de développer d'autres points que j'aurais voulu. Mais bon, voilà, on continue à convoquer les parents plutôt qu'à les inviter. On continue effectivement à leur demander de se justifier, etc. Sur l'impératif de fermeté, j'ai quand même envie de dire effectivement qu'on assiste dans les établissements, ça fait écho aux travaux de Bertrand, on assiste quand même dans les établissements, en tout cas la dizaine que j'ai enquêté ces dernières années, à une multiplication des interdits. On est bloqué à 3 minutes de retard à la porte, je parle de choses très, très précises, on est bloqué avec un retard de 3 minutes à la porte, on reste une heure plutôt que d'aller en cours, parce que si on est étiqueté indésirable et finalement on est, voilà, il vaut mieux qu'on reste dehors plutôt qu'on rentre dans l'établissement, parce que voilà, il y a un règlement, il faut le respecter. Donc l'impératif de fermeté, il se décline, les portillons qu'on multiplie, les sas, les badges pour aller à la cantine, les codes barres, j'en ai parlé tout à l'heure. On valorise pas mal les logiciels, hein, dans les établissements. L'informatisation et l'automatisation est vue comme une solution quand même souhaitable par pas mal d'acteurs, pas par tous. Il y a quand même une multiplication, une extension du domaine du contrôle et de la surveillance avec le recours à l'informatique qui se développe dans les établissements. Donc de ce point de vue-là, il y a un certain conformisme. Après, ce qui est intéressant pour nuancer un peu ça, c'est qu'effectivement, ce travail de repérage, de comptabilisation est tel, il est en fait inatteignable, cet objectif de créer un chiffre exact de l'absentéisme, de recenser et de signaler en temps réel les situations d'absentéisme. Donc finalement, on a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes de CPE, de vie scolaire qui sont très absorbées par ces missions-là, au détriment d'un travail, par exemple, de dialogue et d'échange serein sur un autre mode que celui de la convocation, mais sur celui de l'invitation, par exemple, des parents. Travailler sur la remédiation, travailler sur les malentendus dans les apprentissages, comme disent certains sociologues, travailler sur les relations famille-école. Bon, c'est vrai que cet impératif de signalement, de comptabilisation, etc., prend beaucoup de temps, capte les énergies, épuise les gens, et ce qui devait faire gagner du temps, les nouveaux outils, absorbe beaucoup les énergies et finalement obère pas mal un processus collectif de remise en question des acteurs par rapport à cette question du décrochage au profit de la seule désignation des parents comme étant responsables. Je suis obligé de conclure, d'accord. Bon, je vais conclure sur un point qui est une des principales pierres d'achoppement pour montrer qu'évidemment tout ça se travaille de manière contradictoire, toutes ces injonctions politiques se travaillent de manière contradictoire dans l'espace scolaire. La principale pierre d'achoppement, bien sûr, il y a la résistance subjective, j'ai envie de dire, des acteurs scolaires par rapport à la logique, on va dire, sécuritaire pour aller vite. Bon, une fois qu'on a dit le CF, les débats sur base élève, etc., il y a une autre forme de résistance, je dirais objective, qui n'est pas forcément portée subjectivement, c'est que l'idée de tolérance zéro prônée au niveau politique pour l'absentéisme scolaire, il n'est pas sûr que tous les enseignants soient d'accord avec ce principe-là et se retournent en principe d'intolérance par rapport à certains élèves dans les espaces scolaires. Parce que le problème, et c'est là qu'on revient à la logique propre du champ scolaire, qui n'est pas, qu'on ne peut pas caler mécaniquement sur celle du champ politique, c'est que le champ scolaire est pris aujourd'hui depuis la seconde vague de massification. On ne peut plus orienter les élèves en cinquième, etc. Donc tout le monde au collège, ou presque. Donc les enseignants trouvent qu'un certain nombre d'élèves ne sont pas à leur place, irrécupérables, indésirables. Enfin bon, il y aurait tout un autre exposé à faire là-dessus. Effectivement, préfèrent l'absence à la présence. Et le risque pour eux, c'est pas... le risque, ce n'est pas que les jeunes soient dans la rue plutôt qu'à l'école, c'est qu'ils soient dans leur cours et qu'ils sapent leur cours et qu'ils sapent l'ambiance, etc. Donc il y a, je dirais, une contradiction objective là entre l'impératif politique de resserrer les mailles du filet, garder ces élèves, ces sauvageons dans les murs, et la réalité scolaire et les paradoxes de la massification scolaire qui fait qu'il y a des élèves qui sont indésirables et on aimerait bien pouvoir qu'ils soient dans la rue ou ailleurs, dans leur famille, finalement on s'en moque un peu. J'insiste bien pour finir qu'il y a évidemment des contre-exemples et des nuances dans le discours enseignant. Il ne s'agit pas de dire que la réalité se résume à ces traits-là. Merci.